que vous allez suivre est une rediffusion.
Si vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui, vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse, concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Personne ne sait, il n'y a que vous qui le sachiez. Clairement, ne pas considérer que c'était une grossesse parce que c'était très tôt dans la grossesse, bah, c'est quand même vachement violent, quoi.
RFI. Grand reportage.
On parle de fausse couche ou de fausse couche précoce. Dans le langage courant, l'expression désigne l'arrêt spontané d'une grossesse durant le premier trimestre. Mais l'expression interroge. Il n'y a rien de faux dans cet événement qui touche 15 à 20% des grossesses. Un chiffre important. Pourtant, la fausse couche est encore banalisée, passée sous silence. Fausse couche, la mal nommée, c'est un grand reportage d'Amélie Tullet, tourné avec Virginie Lorda et Stéphane Foulon de Radio France.
Je vais peut-être vous installer en mettant les jambes, voilà. Voilà. Sinon, après, vous tirez sur les abdos. Voilà, merci. Alors, attendez, je vais pas aller pour savoir.
Le docteur Joël Ben Simon reçoit aujourd'hui Sabrina Dos Santos et son compagnon, Mehdi Kellouf. Ils attendent leur premier enfant, une petite fille. Avant, ils ont vécu ensemble deux débuts de grossesse arrêtés spontanément.
Je suis en train d'écouter le cœur du bébé et on remarque que le rythme cardiaque est très accéléré, ce qui est normal et qui est très différent de celui de la maman, puisque celui de la maman est beaucoup plus lent. Et donc, quand c'est bien tapé comme ça, on se dit que c'est bien, que le bébé va bien. Ça me soulage. C'est bon, pas de... On se détend aujourd'hui, tout va bien encore, quoi. Mais j'ai ce, vous voyez, tout va bien encore. Et ça, je pense que si ça avait marché les deux premières grossesses du premier coup, j'aurais pas dit ça. J'aurais été un peu plus euphorique, un peu plus dans l'émotion. Là, je suis juste... Bon, oui, je veux bien qu'on contrôle. Ça me fait toujours du bien, en fait. Comme ça, je sais qu'elle est là.
Le mot fausse couche, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je ne comprends pas.
Du coup, comment vous en avez parlé ?
J'en ai pas parlé, en fait. Personne l'a su. Après, certains proches qui l'ont su m'ont dit « Pourquoi tu nous en as pas parlé ?» Je dis « Parce que, alors d'un, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie d'annoncer de mauvaises nouvelles. » Ouais, je sais pas pourquoi le fait d'en parler dès le premier mois, c'est grave. Est-ce que c'est parce que beaucoup de gens se disent « Ah ben non, parce que c'est chiant. Après, tout le monde va dire « Ah, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre. » Je sais, ouais, mais peut-être que la femme, en fait, elle en a besoin. Elle a peut-être besoin de soutien. Et je pense qu'en gros, la société fait qu'on minimise, en fait, ce risque-là. « Ah, c'est bon, c'est rien, on recommencera. » Ouais, sauf qu'il y a la psychologie, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, il n'y a qu'en passant par là qu'on peut le comprendre.
Celle que je retiens le plus, où on a détecté avec le docteur Ben Simon des jumeaux, donc deux poches, mais aucun... Comment on dit ? J'ai perdu les mots.
Aucune activité cardiaque.
Aucune activité cardiaque. Cette fausse couche-là, avec donc deux poches, j'en ai parlé à personne. Ce jour-là, j'étais très très mal. J'avais pas de mots, parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de positif. Mais en gros, on a été super déçus. Bon, on a pris la voiture, on est rentré, enfin voilà. Et puis le lendemain, et le surlendemain, on a commencé à en reparler un petit peu. C'est là où je lui ai dit, et je lui ai toujours dit, on va y arriver. On peut pas rester là-dessus, et donc on va y arriver. Ces mots-là sont très simples, mais aujourd'hui c'est le cas.
Je suis le docteur Joël Ben Simon, je suis gynécologue. Il y a une évaluation qui dit que 80% des grossesses se poursuivent, donc il y aurait 20% de grossesses qui s'arrêteraient. C'est énorme, on en voit beaucoup, c'est vraiment le quotidien des gynécologues. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup, pour plusieurs raisons à mon avis. De la part du corps médical, on sait que quand une grossesse s'arrête, on ne fait rien pour la sauvegarder. Parce qu'on sait que c'est une grossesse qui est de toutes les façons destinée à s'arrêter.
Donc, nous, en tant que médecins, on est déjà renvoyés à un premier échec. La deuxième chose, c'est que médicalement, les femmes se remettent facilement. Certes, elles saignent abondamment. S'il y a une petite anémie, on compense avec du fer. Mais physiquement, elles se remettent très bien. Par contre, psychologiquement, là, c'est une autre affaire. Elles avaient peut-être projeté la grossesse, idéalisé le bébé, et d'un coup, boum, ça s'arrête, et c'est très compliqué à gérer.
Médicalement, qu'est-ce qu'on sait des causes qui provoquent un arrêt de la grossesse dans le premier trimestre?
Alors, dans le premier trimestre, le plus souvent, ce sont des anomalies chromosomiques. Vous savez que les chromosomes sont formés de deux brins. Il y a un brin qui vient du papa et un brin qui vient de la maman. Les deux brins s'appareillent comme une fermeture éclair. Et bien, il y a une fermeture éclair qui est décalée. Et donc, la grossesse n'était pas destinée à une viabilité et elle est éliminée. Ça, c'est la plupart des fausses couches précoces. On dit que c'est souvent des anomalies chromosomiques et qui ne se reproduisent pas. En gros, quand une femme a eu une fausse couche, elle a 90% de chances que la grossesse suivante soit normale. Autrefois, les médecins disaient « Bon, ben voilà, vous avez fait une fausse couche, allez, vous recommencez dès que vous êtes prête et puis on n'en parle plus. » Et moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux femmes de se remettre d'une fausse couche. Je pense qu'il ne faut pas banaliser la fausse couche.
En tout cas, fausse couche, pour moi, ça ne veut rien dire. Fausse couche, ça ne veut rien dire.
Oui, c'est vrai. Hein.
Le terme fausse couche interroge. En France, dès le XVIIIe siècle, un dictionnaire médical recommande de ne plus l'utiliser. Pourtant, il fait toujours partie de notre vocabulaire. Aux urgences gynécologiques des diaconesses à Paris, l'équipe réfléchit au meilleur accompagnement possible. Jacques Famavan est cadre sage-femme et il explique que parfois, ce sont les contraintes matérielles, les locaux, qui posent problème.
Aux diaconesses, les patientes arrivent aux urgences directement et en effet, la salle d'attente, elle est commune.
Ça veut dire ?
Avec les femmes enceintes.
Donc une femme qui est en train de vivre une fausse couche, elle attend d'être
à côté d'une femme qui est en train d'avoir ses premières contractions. C'est clairement difficile.
Qui le dit? Comment on le dit?
En général, c'est l'échographiste en fait qui va faire l'annonce, l'échographiste qui va annoncer au couple que la grossesse est arrêtée.
Est-ce qu'on a le temps de faire les choses doucement? Comment ça se passe?
L'idée est d'essayer de prendre son temps. Malheureusement, on est aux urgences. Donc des fois, les urgences font que on court. C'est le principe même des urgences. On ne sait pas ce qui nous attend derrière notre porte. Mais la meilleure des médecines, c'est aussi de savoir prendre son temps pour pouvoir discuter. Parce qu'on reste des humains et qu'il faut que l'humain communique avec l'autre.
Vous, vous pratiquez depuis 10 ans. Comment vous voyez les choses évoluer?
J'ai vu des pratiques où on était assez brutal. On pouvait dire de façon très crue, la grossesse est finie, voici les médicaments. Et puis, on fermait la porte et on passait à la patiente suivante, au couple suivant. Et puis, de plus en plus, il y a des équipes qui commencent à travailler sur l'éthique et de se dire que ce n'est peut-être pas la meilleure manière en fait, d'exercer et que prendre son temps, il y a aussi en fait, du soin. Prendre son temps, ça fait aussi partie du soin.
Qu'est-ce que vous pensez du terme fausse couche?
C'est comme si ça n'existait pas. C'est le terme de bon, c'est pas une vraie grossesse en fin de compte. Ça n'a pas existé. C'est vraiment le terme de on va oublier. Je crois que dans le terme de fausse couche, on entend ça aussi. Le terme de il n'y a rien, c'est pas grave, on passe à l'eau suivante. Et je pense que c'est pas vraiment le bon terme. 10h65, on va essayer d'avoir la gynéco de garde. Oui, Anaïs?
Ça commence bien, hein, ça commence sur ça justement. Une fausse couche un peu compliquée, une patiente qui est laissée un peu de côté, qui n'est pas très contente, c'est ce que je comprends. Hop. Je mets juste un petit message sur le groupe et j'arrive.
Yep.
Hop.
Le docteur Anaïs Bekmézian est une des gynécologues obstétriciennes du service.
Venez, installez-vous.
Pour que la patiente aille mieux sur le plan médical, il faut aussi la prendre en charge sur le plan psychologique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'accueil, de l'explication. Et puis, ça peut être aussi de l'ordre de la consolation, c'est-à-dire pas très scientifique et médical, mais de dire, on entend votre tristesse, c'est vrai que c'est très triste, malheureusement, c'est fréquent, donc ne pas aussi inquiéter trop les patientes, parce que oui, c'est triste, mais c'est pas grave. Dans le sens où ce n'est pas forcément une maladie maternelle, ce n'est pas forcément une anomalie fœtale, ça peut arriver. Les fausses couches du premier trimestre, ou plutôt les arrêts de grossesse au premier trimestre, c'est fréquent. Donc il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas non plus... il faut dire que c'est des choses qui arrivent, que ce n'est pas quelque chose que la mère a fait aussi, parce que ça, il y a beaucoup de culpabilité des patientes. Les modalités de présentation des fausses couches sont différentes. Il y a des fausses couches qui arrivent avec des contractions, des saignements, qui sont tordues de douleur. Et puis il y a des femmes qui arrivent pour leur écho du premier trimestre, et puis on découvre que la grossesse est arrêtée. Et c'est la même chose. La réaction des femmes face à une grossesse qui s'arrête au premier trimestre dépend aussi beaucoup, beaucoup de son histoire et de l'investissement qu'elle a eu de sa grossesse et donc de son histoire personnelle, obstétricale ou même dans l'enfance. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent et je me suis rendu compte que c'est très important en fait d'entendre cette histoire de vie et de refaire le parcours avec elle pour pouvoir mieux les prendre en charge sur le plan médical.
Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, vous pensez,
bien sûr,
structurellement?
Oui. De toute façon, bien sûr, il y a quelque chose à améliorer structurellement. Après, ce qu'il faut aussi que les gens aient dans la tête, c'est que les gens qui sont à l'hôpital, les soignants, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue et qui sont dans la voiture quand ils sont coincés dans les embouteillages et qui râlent, en fait. C'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des cons partout, en fait. Et il y a des gens qui ne savent pas parler aux patients partout. Et ce n'est pas en gynécologie. Je trouve que le gynéco-bashing, par exemple, qui est sur le devant de la scène, n'est pas justifié parce que cette absence d'écoute et de formation à l'écoute, elle est dans toutes les spécialités. C'est beaucoup plus général et beaucoup plus global. Et oui, il y a un gros effort à faire sur la formation. Mais moi, je n'ai pas eu de formation. Il y a aussi un gros effort à faire sur soi et puis sur penser qu'on n'a pas la vérité absolue et que la pratique de la médecine, elle évolue. Quoi. Les gens, ils ne peuvent pas dire « ça fait 35 ans que je fais la même chose, ça fait 35 ans que je vais continuer à faire la même chose ». Non, il faut changer. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, on nous disait « la prise en charge, c'est une prise en charge globale du patient ». On ne nous disait pas vous soignez cet organe ». C'était déjà dans la formation, il était dit « il faut tout prendre en compte ». Après, est-ce qu'on avait le temps de le faire? Est-ce qu'on nous donnait les moyens de le faire? Le nombre de soignants suffisant pour le faire? Non. Il y a une injonction à ça, sans nous donner aucun moyen, que ce soit financier ou humain, ou dans la formation pour le faire.
Le docteur Anaïs Bekmézian se dirige vers le bloc opératoire pour une aspiration. Un geste médical parfois nécessaire quand le corps n'a pas évacué tous les tissus de la grossesse qui vient de s'arrêter.
Donc moi je vais me laver les mains. Quand je vais rentrer, vous serez encore éveillée.
Okay.
Le temps qu'on m'habille, l'anesthésie est très courte.
Oui.
Dès qu'on vous endort, ensuite on installe les jambes en position gynécologique. Lucie, l'infirmière, a amené l'appareil d'échographie pour, comme je vous ai expliqué, que je vérifie avec, oui. Avec l'échographie qu'il ne reste rien du tout dans l'utérus. Ça va durer une dizaine de minutes. Vous allez avoir un petit peu mal au ventre, comme des règles, pas plus douloureux que ça.
D'accord. Et il y a le sang qui va sortir.
Un petit peu. Ça va saigner un petit peu pendant quelques jours.
Ça marche.
Ok. Donc après le bloc opératoire, vous allez aller en salle de réveil. Et ensuite, on vous remet là où vous étiez au début, au quatrième étage.
Ok.
Vous vous reposez un peu, vous mangez un petit truc et je viens vous voir en début d'après-midi pour voir si tout va bien avant votre sortie.
Ok.
Ça vous va?
Ça me va.
Ok. Bon, allez, on y va. Je me lave les mains.
Alors, je vais mettre un masque sur le visage et l'oxygène, d'accord?
Il y a un sas, on est changé, on va se changer. Là, on arrive. Quand on a une césarienne, la patiente qui sort du bloc de césarienne va en salle de réveil. Quand on va faire une aspiration pour une grossesse qui s'est arrêtée, la patiente va en salle de réveil. Donc il faut imaginer que la patiente qui est enceinte et qui a accouché a un enfant à côté d'elle et que la patiente à qui on a fait une aspiration n'a pas d'enfant à côté d'elle. Donc voilà, on n'a pas deux salles de réveil complètement séparées. On essaye de les mettre dans une autre petite salle de l'autre côté en fait. Mais si le bébé pleure, le bébé pleure. Voilà. Donc ça par exemple, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on devrait. Est-ce qu'on peut techniquement avoir, avec les locaux et tout, et la possibilité de surveillance de nos patients, est-ce qu'on peut faire autrement? Non. On n'a qu'une infirmière de salle de réveil pour surveiller toutes les patientes. Les locaux, en fait, où l'institution peut être violente, mais est-ce que les soignants eux-mêmes sont violents ou peuvent changer leur pratique? On a trop d'impératifs qui sont difficiles à... Voilà. Donc c'est ce qui rend aussi la prise en charge difficile.
Pour améliorer cette prise en charge, l'équipe des diaconesses compte deux psychologues à mi-temps et organise des groupes de parole pour celles et ceux qui en éprouveraient le besoin après un arrêt de grossesse dans le premier trimestre. Des espaces d'écoute et d'échange, c'est aussi ce que propose l'association AGAPA. Sybille et Natacha ont toutes deux été accompagnées. Aujourd'hui, elles veulent aider à faire évoluer la façon dont on pense et parle de cette universelle mais mal nommée fausse couche.
Alors, je m'appelle Sybille, j'ai 40 ans et là, je suis enceinte actuellement de mon deuxième enfant. Et il se trouve que j'ai fait 3 fausses couches avant, entre la naissance de ma fille et donc la grossesse que j'attends, enfin que je suis en ce moment. Et mes 2 premières fausses couches, en fait, je ne me suis pas trop posé la question parce qu'elles étaient arrivées assez tôt dans la grossesse. Et donc, en fait, j'ai compensé en travaillant beaucoup. on pense à autre chose et puis voilà, c'est pas grave, on va de l'avant. Sauf que ma dernière fausse couche a été beaucoup plus traumatisante. J'ai senti que si je n'étais pas accompagnée, je perdrais pied. Donc quand on a l'impression de tomber dans la folie en fait. Et je pense que j'étais vraiment à cette frontière. J'ai été tellement surprise par le fait qu'on me dise bah, « Voilà votre ordonnance pour les antidouleurs. » Et basta. Donc on était très sur du physique. Et je me disais « Mais moi, dans ma tête, je vais pas bien, en fait. » Et donc j'ai regardé des associations. Et donc c'est Agapa qui est sorti en premier sur Google. Je pense que le lundi, je perdais vraiment le bébé. Et le lundi soir, j'avais Laure au téléphone, mon accompagnatrice, avec laquelle j'ai déjà pu parler pendant je ne sais pas combien de temps, mais qui était juste là pour écouter.
Quels sont les mots qu'il ne faudrait plus jamais entendre?
Pourtant, Stacha, on aurait une bonne liste.
Il y en a beaucoup. T'en feras un autre.
moi, pareil, j'ai des fausses couches entre mes deux garçons. Bah, t'en as déjà, hein, c'est déjà bien, accroche-toi à ça.
Oui, ça, c'est horrible, ça.
En fait, c'est une façon de nier et de dire bah, « c'est bon, t'inquiète, t'en as déjà un ».
Et c'est pas grave, et c'est pas grave.
Et le côté « ah oui, vous avez votre sac qui est remanié ». Moi, je dis « mais mon sac à main ?» Et en fait, la personne qui me faisait l'échographie, elle dit « mais non, vous voyez le sac là, donc oui, vous faites une fausse couche ».« Ah oui, d'accord, je fais une fausse couche, ah oui, donc c'est bien ça ». Donc le côté ne plus parler en termes techniques, que je ne comprenais pas en fait, juste hein, tout simplement. Le côté c'est pas grave, en fait pour moi c'est grave, donc me dire que c'est pas grave c'est nier le fait que pour moi c'est important. Et oui, le côté t'en fais pas, t'en feras un autre, c'est magique que ce soit du corps médical, des proches, enfin ça faut bannir ça. Hein.
Si vous perdez un bébé, c'est ça aussi la vision de la société aujourd'hui, vous perdez un bébé avant que ça se voit, avant que ça se sache, avant que la sécu vous reconnaisse enceinte, c'est-à-dire à partir de l'entrée dans votre deuxième trimestre de grossesse, concrètement, officiellement, vous n'êtes pas enceinte. Personne ne sait, il n'y a que vous qui le sachiez. Clairement, ne pas considérer que c'est une grossesse parce que c'était très tôt dans la grossesse, bah, c'est quand même vachement violent, quoi. J'ai fait aussi 3 fausses couches. La première, j'ai fait une fausse couche très spontanée. J'ai eu ascenseur émotionnel. Oh, je suis enceinte, génial. Et puis, 2 semaines après, bon, bah non, perte de sang, voilà. La deuxième, j'ai eu besoin de faire un curetage. J'étais enceinte de presque 3 mois. Et la troisième, en fait, je me suis rendue compte très vite que ça n'allait pas évoluer parce que du coup, on faisait des dosages de taux BHCG et très vite, ils ont arrêté d'évoluer comme il fallait. Et on m'a donné des cachetons. L'interne m'a très gentiment dit, tiens, ça c'est à rajouter sur la phrase. Dans les phrases qu'il ne faut pas dire, c'est « ça va faire comme des grosses règles ». Non, définitivement non. Et définitivement non, non. Même si c'est une grossesse très jeune, ce n'est pas comme des grosses règles. Et j'ai pris les médicaments. Je pensais que vraiment, ça allait arriver bah, rapidement. En même temps, je me disais, il m'a arrêté un jour, c'est bien que ça va se faire aujourd'hui, quoi. Non, enfin, j'ai commencé à perdre un petit peu de sang le jour J, mais j'ai réellement perdu l'œuf le lendemain, en direct live au boulot, aller me changer toutes les demi-heures au travail et à voir ce que je perdais. Enfin, c'était pas des grosses règles. Alors, c'était très, très tôt. C'était, voilà, on voyait pas, moi, c'est pas un bébé que j'ai perdu, c'est un œuf. Donc, mais par contre, effectivement, j'ai vu là, ce que j'ai perdu, les membranes. Petite, je ne sais même pas comment décrire ça, mais espèce de truc complètement gélatineux. Donc quand on ne vous prévient pas, que vous êtes au travail, qu'on ne vous a pas arrêté et que vous vivez ça comme ça, non, je suis désolée, mais c'est pas, ça, ce n'est pas normal. Et là, pour le coup, oui, j'ai pu être en colère ce jour-là.
La réflexion que je me suis faite derrière toute cette ouverture de parole, c'est de me dire, comment est-ce que je fais pour que ma fille, quand elle voudra avoir des enfants, que pour elle, ça soit un autre sujet, en fait. Je perds un bébé parce que c'est comme ça, parce que la vie fait que c'est ça. Mais en fait, j'ai une société qui le comprend, qui accompagne, que ce soit au niveau du corps médical, que ce soit avec les familles, que ce soit avec les amis, que ça soit complètement ouvert. Moi, je refuse que ma fille vive les mêmes choses que j'ai vécues. C'est pas possible.
Fausse couche, la mal nommée, un grand reportage d'Amélie Tullet, tourné avec Virginie Lorda et Stéphane Foulon de Radio France. Réalisation, Pauline Leduc.